Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Et si Malte était la pointe émergée de l'Atlantide ? La présence de nombreux sites mégalithiques sur l'île de Malte a plongé les savants dans l'expectative. Faute d'explications satisfaisantes, certains d'entre eux ont tenté d'en donner au moins une. Malte est le sommet de l'Atlantide, ce continent englouti évoqué par Platon dans les dialogues de Timée de Critias. Il leur a inspiré une littérature plus abondante que celle inspirée par les terres émergées. Certains avaient situé la terre des Atlantes en Palestine, d'autres en Suède. Les fonds alentour de l'île de Santorin en Grèce ont recueilli de nombreux suffrages et la région de Gibraltar fut un moment en passe de prendre le pas sur toutes ces hypothèses. Celles qui la situaient du côté des Canaries firent plus nombreuses, sans doute influencées par les essais sur les îles Fortunées, publiés en 1803 par le naturaliste Jean-Baptiste Boré de Saint-Vincent. Ces essais-là tenaient à trouver que les débris de cette célèbre Atlantide, dont l'avare océan engloutit les villes des monuments et les richesses, étaient installés sur l'archipel des Canaries. Pour le marquis de Forcer d'Urban, un esprit savant, membre de plusieurs académies en France, en Italie, en Allemagne, il n'y avait pas de doute, Ogygie, le nom antique donné à Calypso, était bien aujourd'hui à Malte. Dans le tome 9 paru en 1809 de sa monumentale histoire ancienne du globe terrestre, qui lui parut de 1807 à 1811 en 10 tomes, il répond aux essais sur les îles Fortunées de Borie avec un article intitulé « Histoire et théorie du déluge de J.S. ou de Noé et de la submersion de l'Atlantide ». Cet article, connu, ont sans doute un certain retentissement dans le monde scientifique contemporain. Certes, Forcer n'avait pas tout à fait la preuve de ce qu'il avançait, mais son intime conviction en ce domaine était grande. Or, le 13 juin 1827, notre savant reçut le courrier d'un architecte maltais, Georges Grenier de Vassé, qu'il avait rencontré à Rome vers 1810. Celui-ci lui faisait part de la découverte extraordinaire d'une pierre qui, je cite, « détermine enfin au juste la véritable position de l'ancienne Atlantide qui s'étendait depuis le golfe de la Grande Sirte jusqu'entre le cap Bonafrique et le cap Marittimo de Sicile et dans les îles de Malte et du Gose, les anciens sommets du fameux mont Atlas qui se levait presque au milieu de l'Atlantide, submergé avant l'ère chrétienne 2298, époque du déluge d'Ogygie. » Et Grenier racontait qu'il avait reçu une lettre datée du 7 mai 1826, écrite par Don Giuseppe Felice Galea, depuis Città Vecchia, autrement dit Mdina, l'ancienne capitale de l'île de Malte, lui indiquant que, durant des travaux de terrassement, il avait trouvé à quelques mètres de sa maison une grande pierre, couverte d'inscriptions phéniciennes, et la lui donnait, afin qu'il puisse en découvrir la signification. De son côté, Don Giuseppe Felice Galea prenait sa plume le 30 août 1827 pour écrire au marquis et lui confirmer la découverte de la pierre et son don à Grenier. Le marquis, qui se prénommait, il faut le souligner, Agricole Joseph François Xavier Pierre Esprit Simon Paul Antoine, entreprit aussitôt de rédiger une communication à la Société Asiatique, appuyée par une lithographie représentant la pierre. En trouvant la langue phénicienne établie en Afrique à une si haute antiquité, nous ne pouvons trouver étrangère à nos travaux la connaissance d'un dialecte né vraisemblablement en Asie, devait-il y écrire. Cette information provoqua une certaine sensation chez les savants européens. On tenait une nouvelle pierre de Rosette. D'augustes personnages comme Giuseppe Mezzofanti, qui allait être fait cardinal en 1838, alors professeur de langue orientale et grecque à l'université de Bologne, Domenico Valeriani à Florence, qui avait violemment attaqué Champollion et les nouvelles sciences des hiéroglyphes, avant de faire amende honorable, et un certain Lanzi à Rome, qu'il convient de ne pas confondre avec l'archéologue Luigi Lanzi, mort en 1810, souhaitèrent, c'était bien naturel, examiner cet exceptionnel document archéologique. Le 10 mars 1829, M. d'Aiguillet, chancelier au consulat de France à Malte, accepta la demande du marquis de Forcia et fit expédier à Paris la fameuse pierre, accompagnée d'un dessin de la pierre réalisé par le sculpteur maltais Sigismondo di Mec, selon le procédé lithographique qui commençait à l'époque à être largement utilisé, afin qu'il puisse être distribué aux différents savants intéressés. Mais le doute s'instaura dans les esprits et le premier, Louis de Ménil de Rienzi, membre lui aussi de plusieurs académies de sociétés savantes de France, de Rome, des Indes, etc., écrivit à Forcia accusant Grenier d'être un imposteur à l'imagination fertile. car les inscriptions de l'alphabet atlantido-phénicien étaient curieusement semblables à ceux d'une inscription bilingue découverte par lui en 1819 à Cyrène. Et pour appuyer ses accusations, il fit publier en 1832 une question importante de manuscrits et inscriptions antiques, réponse à M. le marquis de Forcé d'Urban. Mais avant la publication de cette lettre, Grenier avait déjà senti le doute qui s'était installé chez ses savants confrères, notamment à propos d'une interprétation faite par l'orientaliste Antoine Sylvestre de Sacy. C'est sans doute la raison pour laquelle Grenier fut ajouté dans la seconde édition de 1837 de Historical Guide of the Island of Malta and its Dependencies, le premier guide imprimé à Malte et paru pour la première fois en 1830, signé par Giuseppe Periuccioli Borsesi, un Italien de Sienne, un texte de 19 pages, écrit en italien, sous le titre « Che Malta comino e gozzo siano gli avanzi della antica Atlantide ». Ce texte tenait à prouver que les îles de Malte étaient les restes du continent perdu de l'Atlantide. On y reproduisait évidemment et également la copie de la pierre et une traduction latine du contenu. Que pensez-vous qu'il arriva ? À Paris, la pierre montra de cette année-là des signes de détérioration. Il ne resta plus à Grenier qu'à révéler la supercherie. Il reste de cette histoire un rapport complet sous forme de manuscrit achevé en 1854 par Jean Grenier de Vassé et surtout les aquarelles qu'il composa pour appuyer ses dires. Ces aquarelles, comme le manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de Malte, semblent largement inspirées par celles, du moins les aquarelles, du peintre Carl Friedrich von Brandgoff, qui avait reçu en 1828 la commande du premier duc de Buckingham de produire une série de vues de Malte et Gozo. Finalement, et si Malte était réellement la pointe émergée de l'Atlantide, cela expliquerait peut-être la présence de ces temples mégalithiques, dont nous savons aujourd'hui, et que Grenier ignorait, que leurs bâtisseurs avaient appartenu à une civilisation avancée et élaborée.